Bonjour. Il a dit un mot qui m'a beaucoup choqué. C'est le mot libanisation. Au Liban, le mot libanisation est extrêmement positif. Parce que le Liban est quelque chose qui est très positif. Donc, libanisation, c'est positif. Bon, en Occident, ils ont inventé, la presse a inventé le mot libanisation pour dire quelque chose de mauvais, pour dire la division. Mais la division n'est pas libanaise. C'est quelque chose aussi qui vient de l'étranger. Ce qui le prouve, c'est que quand l'argent s'arrête, tout va bien. Je vais donner un exemple très simple que vous pouvez tous vérifier. C'est qu'après les massacres de 1860, les massacres de chrétiens par des druzes, qui étaient en fait commandités par l'Empire ottoman, et ça, c'est, je mets des documents dans ce livre pour les prouver, des citations de documents, ce que disaient les grandes puissances à l'époque. Donc, c'est l'Empire ottoman qui les a commandités. Et puis, il n'y a plus rien eu, plus un massacre, plus une bagarre entre chrétiens et musulmans, ni à partir de 1861 jusqu'à 1958. Allez compter un seul pays au monde qui n'a pas eu de bagarre ni de guerre civile durant toute cette période. À commencer par les pays de la région. Comment ça se fait que tous les pays de la région soient en état de paix civile et le Liban en guerre civile alors qu'il avait passé 100 ans en état de paix civile unique au monde, peut-être pas unique au monde, il y en avait aussi en Suisse, il n'y en avait pas en France. Donc libanisation, c'est quelque chose de très positif. N'écoutez pas les médias et surtout, de grâce, n'utilisez pas ce mot de façon péjorative. D'ailleurs, je vais vous donner un autre exemple. Les Mourabitoun, qui sont une milice sunnite qui terrifiait Beyrouth au début de la guerre, ils n'ont plus été rien quand l'argent palestinien s'est arrêté. Mais rien, ils se sont fait massacrer en 1984, massacrés par les Palestiniens et les Syriens. Alors qu'avant, ils étaient les maîtres tout-puissants de Beyrouth ouest. Si une guerre s'arrête quand l'argent s'arrête, c'est qu'il n'y a pas de guerre. Parce que vous savez, n'importe qui peut payer à des voyous. Il peut les payer pour qu'ils aillent manifester, il peut les payer pour qu'ils aillent tuer. Ce sont des tueurs à gages. Ils ne sont rien du tout, ils sont une affiche. Donc, libanisation, c'est un mot qui est faux. Pour désigner quelque chose de négatif. Si vous voulez l'utiliser pour du positif, pour dire que nous nous aimons mutuellement, oui. Maintenant, il y a des problèmes au Liban, maintenant, ça c'est sûr, mais ils s'arrêteront dès qu'il y aura un déclic d'espérance. Vous ne verrez plus rien de ces problèmes. Maintenant, on m'a demandé de parler de la christianisation, de la mission au Liban. Moi, j'ai proposé de parler de la christianisation en Orient, de la christianisation en Orient en même temps qu'il y avait une islamisation en Occident, une islamisation dont vous êtes témoin. Malheureusement, cette islamisation est galopante, mais soyez certains qu'en Orient et dans tous les pays dits musulmans, c'est le mouvement inverse qui se produit. Pourquoi ? Probablement parce que Daesh fait de la mission à l'envers. Vous savez, comme la plupart des musulmans ne sont pas des gens féroces, ce ne sont pas des gens immoraux, ce ne sont pas des gens méchants. Maintenant, à l'époque où nous sommes maintenant, c'est des gens qui souvent sont plus naïfs, plus purs que les occidentaux. Et quand ils voient, bon, quand Daesh fait de la publicité à ces versets, combattez-les, tuez-les, serrez le garrot, quand Daesh donc fait de la publicité à ces versets-là, ces musulmans qui sont purs détestent ça et ils font une réaction. Quand j'ai brûlé le drapeau de Daesh, j'ai été très 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 étonnée. Je pensais que plus un musulman ne me parlerait. Mais en fait, ça n'a pas été comme ça. Ils m'ont défendu. C'est eux qui m'ont défendu. D'abord sur le plan public, dès le second jour, il y a un ouléma qui m'a défendu, un ouléma de Sidon, une célébrité, un des plus célèbres du Liban, Bon, il n'a pas dit que j'avais bien fait. Il a dit, voilà, c'est de l'ignorance de sa part, mais il ne faut pas la tuer pour autant. Des deux semaines après, le ministre de l'Intérieur, sunnite, a également défendu ceux qui brûlent le drapeau noir, alors qu'à l'époque, j'étais le seul nom connu de personne ayant brûlé le drapeau noir en question. Il y avait eu une épidémie depuis. Et au contraire, à la paroisse, le prêtre qui me dit que mon geste avait manqué de charité. Imaginez un peu, brûler le drapeau de Daesh, c'est manquer de charité. Je lui ai dit non, moi je dis aux gens, priez pour eux. Il me dit oui, priez pour eux et vous brûlez leur drapeau. Bah, oui, bien. Si je les aime, je veux leur bien, non? Si moi je considère que le Christ c'est bien, que le Christ c'est une chance, pourquoi est-ce que je vais les priver de cette chance? Bon, maintenant, il y a des étapes à suivre. Moi, je ne suis pas pour d'aller immédiatement, voilà, devenons chrétiens, etc. Non, ils ne sont pas prêts à ça. Et vous savez, le bouton de rose, si vous essayez de l'ouvrir, il se déchire. Moi, je pense que Dieu est celui qui a le rôle le plus important à jouer dans la conversion des musulmans. Il ouvre la porte quand il veut. Et qu'il ne faut surtout pas croire qu'il faut aller supplier les musulmans de devenir chrétiens. Ça, c'est la dernière chose à faire. Ça, nous, au Liban, en tout cas, on ne la fait pas. Parce qu'au contraire, c'est la chance de leur vie s'ils devenaient chrétiens. Mais en même temps, moi, j'ai constaté que quand j'y allais trop tôt, quand la personne n'était pas prête, il y avait une réaction contraire. Et il y a des personnes qui se sont éloignés à cause de ça, donc je fais attention. J'y vais d'une autre manière. Vous savez que le Christ, dans l'évangile de saint Matthieu, chapitre 24-25, dit qu'au jugement dernier, il va mettre les uns à sa droite, les autres à sa gauche, les brebis, c'est-à-dire ceux qui suivent le troupeau, son troupeau, ceux qui suivent le berger, il les met à droite, et les chèvres, celles qui grimpent n'importe où, il les met à sa gauche, et les brebis, ce qu'il appelle brebis, ce sont ceux qui ont donné à manger à ceux qui avaient faim, qui ont nourri ceux qui ont visité les prisonniers. Et il récite un certain nombre d'actes de charité, mais faites attention, dans l'évangile, tout est à prendre au spirituel. Donc quand vous allez vous occuper de quelqu'un qui est dans la détresse, vous avez suivi ce qu'il dit. De toute façon, nous ne pouvons pas aller visiter les prisonniers, c'est souvent interdit. Mais si nous visitons ceux qui sont prisonniers du péché ou ceux qui sont prisonniers d'une doctrine erronée qui leur fait leur malheur, ça compte comme visiter les prisonniers. Donc j'essaie de les pousser à suivre les commandements du Christ. Quand je ne peux pas parler du Christ, je leur dis donc il faut pardonner à nos ennemis, il faut les aimer. Alors quand j'ai brûlé le drapeau de Daesh, donc, je leur ai dit, il faut prier pour Daesh. À l'église, un jeune homme qui priait le chapelet, je lui ai dit, tu sais que quand tu dis le Notre Père, quand tu arrives au pardonnez-nous nos offenses, comme, si tu ne pardonnes pas à Daesh et aux autres, Dieu ne te pardonnera pas. Il me dit oui. Il me dit oui, depuis que je prie pour Daesh, je n'ai plus peur de Daesh. Et ça, c'était l'époque où Daesh venait d'envahir une partie du Liban. Il se trouvait au nord du Liban et à 50 kilomètres de nous. Alors, avec les musulmans, c'est un peu plus difficile. Parce que dès que vous leur dites « pardonnez à Daesh », ils vous sautent dessus, ils vous disent « on veut les brûler, on veut les massacrer ». Alors, je leur dis « mais si vous priez pour eux, et s'ils deviennent bien, s'ils ne deviennent pas bien, bon, tant pis, Dieu s'occupera d'eux ». Ou bien nous, quand on combat en tant que combattant, on s'occupera d'eux en tant qu'armée, quoi. Armée officielle, armée nationale. Mais sinon, en tant qu'individu, si vous priez pour eux et s'ils deviennent bien, ils vous aimeront et vous les aimerez et ils deviendront sympathiques et il n'y aura plus de Daesh. Et j'ai convaincu pas mal de musulmans de faire ça. Bon, ils prient à leur façon. Il y en a qui vont dans des églises allumer des bougies quand ils sont convaincus qu'il faut prier donc pour Daesh. Ils vont dans des églises ou bien ils prient pour eux d'une autre manière. Et Et sur ce plan, j'ai réussi auprès de beaucoup de musulmans, et ce que je n'ai pas réussi auprès de beaucoup de chrétiens. À la même époque, quand je disais aux chrétiens, il faut prier pour eux, il faut leur pardonner, ils me disaient souvent, non, il y a des choses qui ne se pardonnent pas, je ne peux pas. Mais comment ça? On est chrétien ou on n'est pas chrétien, ça c'est, il faut choisir. Et ça c'est la première chose dans la religion chrétienne. Le Notre Père nous questionne. Si vous voulez vraiment être aimé du Christ, aimez vos ennemis et faites du bien. Et vous pouvez être sûr que le musulman qui fait ça, il va aller au ciel, qu'il soit baptisé ou pas. Mais moi, je pense que quand il commence à faire ces choses-là, le Christ se rapproche d'eux parce que le Christ a dit, si quelqu'un m'aime, il suit mes commandements. Donc celui qui ne suit pas ses commandements ne l'aime pas. Et si quelqu'un l'aime, il suit ses commandements et mon Père l'aimera. Et nous viendrons en lui et nous établirons en lui notre demeure. Et si un musulman fait ça, il est logique que le Christ se rapproche de lui. C'est pour ça qu'il vaut mieux, pour évangéliser, il vaut mieux pousser les musulmans à suivre les commandements du Christ. Parce que finalement, le Dieu qu'on adore, c'est pas son nom. Le Dieu qu'on adore, c'est le Dieu dont on suit les commandements. Donc si moi je suis les commandements du Christ, même si je ne suis pas baptisé, obligatoirement, je vais aller chez le Christ. C'est ce que dit, quand je mourrai, c'est ce que dit l'évangile de saint Matthieu. Maintenant, il y a un avantage à être chrétien officiellement et baptisé, c'est que les sacrements donnent une aide. Les sacrements aident à devenir un saint. Et il y a une druze libanaise convertie au christianisme qui disait aux frères musulmans qui venaient essayer de la convaincre de devenir musulmane, elle leur disait, amenez-moi un seul de chez vous, la jama'a islamique, un seul comme Saint Cherbel et je deviendrai musulmane. Vous savez, chez nous, on n'a pas vraiment besoin de parler, évangéliser. Daesh et Saint Cherbel s'en occupent à notre place. Daesh, Saint Cherbel, Saint Rafa. Saint Cherbel fait 10 à 15% de miracles pour les musulmans. Alors, ce qui était amusant, c'est l'autre jour, il y avait un chauffeur. Il y avait une chose quasiment impossible. Je lui ai dit, bon, je vais prier Saint-Rita. C'est un musulman. Déjà, une des manières d'évangéliser, c'est de ne pas s'empêcher de dire ces choses-là. Je lui ai dit, je vais prier Saint-Rita. Il me dit, oui, pour moi, Saint-Rita et Saint-Cherbel. C'est un musulman libanais qui me l'a dit. Et si vous montez à Harris, à Notre-Dame du Liban, regardez les graffitis, vous verrez beaucoup, beaucoup de graffitis musulmans. Et si vous allez à Saint-Cherbel, pareil, vous voyez beaucoup de graffitis musulmans. Ils montent là-haut demander des faveurs. Et Saint-Cherbel, la Vierge, les autres saints leur font des faveurs. Et il y a une amitié entre eux. Et ça aboutit très souvent, vous savez, c'est par les miracles que le monde a été évangélisé. Commençons déjà par Constantin. Non, commençons par Saint-Georges, qui, d'après la tradition, est le patron de Beyrouth, et qui, d'après la tradition, a terrassé le serpent à Beyrouth. À l'époque des croisades, on allait faire un pèlerinage à Beyrouth pour visiter l'endroit où Saint-Georges avait terrassé le dragon, et qui était devenue une église. L'église a été reprise et devenue une mosquée. Et le chevalier d'Arvieux, qui avait visité Beyrouth à cette époque, écrit que Saint-Georges n'avait jamais fait autant de miracles que quand on avait transformé son église en mosquée, c'était comme pour les narguer. Anne-Catherine Emmerich, la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, qui a vu la vie du Christ jour par jour, parlant des musulmans, à l'époque on les appelait les Turcs, aujourd'hui on les appelle les Arabes, ils sont ni Turcs ni Arabes. Alors elle dit, parlant des Turcs, elle dit, des Turcs iront au ciel avant nous pour avoir pratiqué la loi naturelle. Donc raison de plus pour les pousser à pratiquer la loi naturelle, pour les pousser à obéir au Christ, parce qu'à ce moment-là, leur Dieu sera le Christ, pour que le Christ puisse lui se rapprocher d'eux, parce que finalement, il leur parle de l'intérieur. On a entendu un témoignage hier, le témoignage de la dame policière, qui était très émouvant et qui montre que comment Dieu intervient finalement avec beaucoup de musulmans à l'intérieur de leur cœur, et c'est lui qui les convertit là où nous n'aurions rien pu faire. Alors, je vais donner l'exemple du père Osseran, que vous connaissez tous. Ah non, je parlais d'Anne-Catherine Emmerich, que je finisse avant. Donc, Anne-Catherine Emmerich, ayant dit que beaucoup de Turcs iront avant nous au ciel pour avoir pratiqué la loi naturelle, elle dit aussi, parlant de l'Orient, des pays devenus musulmans de son temps, parce qu'elle parle à l'époque de Napoléon, elle dit, les pays qui ont été en premier évangélisés par les apôtres ne sont pas perdus. Ils sont laissés comme en jachère pour être réévangélisés quand les autres seront perdus. Donc si maintenant on a l'impression que tout est perdu en Occident, dans les pays chrétiens, c'est le moment d'ouvrir pour Dieu, d'ouvrir la porte. Et effectivement, c'est ce que nous constatons. Déjà, nous constatons qu'au XIXe siècle, quand on a commencé à parler de la mort de Dieu en France et en Occident, on constate que ça a commencé, été le moment où les Juifs ont commencé à se convertir, ou du moins à reconnaître que Jésus était le Messie qu'ils attendaient. Et le mouvement augmente encore au XXe siècle. Maintenant, c'est le moment des musulmans. Ils sont... on ne peut pas donner des chiffres précis, mais quand on vous montre un reportage sur TF1 qui vous parle de 30 000 Algériens ou 40 000 Algériens devenus chrétiens, moi je pense que vous ne pouvez pas vous fier à ce chiffre. Ils sont 100 fois plus nombreux probablement. Beaucoup, beaucoup plus que ça. Et on les compte par millions chaque année. Mais c'est le souterrain. Vous savez, quand la rivière est gelée, ça commence, le dégel commence par en bas. Quand le champ est rempli de neige, le dégel commence par en bas aussi. Vous voyez la couche de glace en haut, et puis soudain, ça craque. Et là, on voit la couche de glace, donc tout a l'air comme avant. Mais en fait, il y a un mouvement extraordinaire qui se fait dans le souterrain. Il y a beaucoup de conversions. Maintenant, il faut faire attention, quand vous avez affaire à eux, il faut faire attention sur le plan du dogme, parce que quand on se convertit tout seul, on n'a pas nécessairement toujours le dogme parfait, ça c'est évident. On a besoin de l'Église. Surtout qu'avec les protestants, les conversions sont faciles, mais elles ne sont pas suivies. Il faut insister avec eux. Les choses doivent être comme ça et pas comme ça. C'est ce que l'Église enseigne. L'Église ne l'enseigne pas comme ça. Elle est basée sur des passages de l'Écriture. Elle est basée sur des révélations. On ne peut pas, nous, notre propre révélation privée, passer avant les autres. Mais disons, leur mouvement est tellement beau, tellement émouvant, que, vous savez, c'est comme le printemps, quand les arbres commencent à se couvrir de bourgeons, on croit encore qu'ils sont morts, mais si on regarde le bout des branches, on voit les bourgeons, et on sait que le printemps est proche. Donc maintenant, il suffirait d'un mouvement, d'une étincelle, un peu comme Constantin. Vous savez, la conversion de Constantin, quand il a dit, le plus grand général de l'Empire romain a dit que ce n'est pas lui qui a gagné la bataille, c'est le Dieu des chrétiens. Et il a parlé d'une croix qui lui est apparue, et la phrase, par ce signe tu vaincras. Vous imaginez un peu aujourd'hui un général de l'armée française disant, c'est pas moi qui ai gagné la bataille, c'est le Dieu des chrétiens. Et aussitôt, plein de gens deviendraient chrétiens. C'est ce qui est arrivé au temps de Constantin. Au temps de Clovis, c'est une histoire pas très différente. Au Mexique, c'est l'histoire de Notre-Dame de Guadalupe. Mais partout, partout dans le monde, les conversions viennent des apparitions et des miracles. Tout, partout, qu'on le veuille ou non, c'est Dieu lui-même qui donne la grâce. Sinon, ce ne serait pas une religion divine, ce serait une religion venue de nous. Donc, j'ai un message à donner à ceux qui croient qu'en disant aux musulmans « Marie », est la même, où Jésus est le même, et voilà, marchons ensemble avec Marie. Je crois que vous reconnaissez un peu Le mouvement qui dit « marchons ensemble avec Marie » ou « ensemble avec Marie », dès que vous dites ça, vous travaillez contre Marie. Vous travaillez contre Jésus, vous ne travaillez pas avec eux. Parce que cela reviendrait à dire « voilà, voyez, soyez avec nous ». Non, vous leur dites les commandements du Christ, vous leur dites les sacrements, vous leur dites s'ils sont capables de le supporter. Parce que aussi, quand vous donnez un super ragoût bien cuisiné à un bébé, vous lui ferez du mal. Le bébé, il a besoin de quelque chose de très simple. Donc, ensemble avec Marie, ce n'est pas un mouvement qui est bien. Parce que cela revient à mentir, à prétendre que la Marie de l'Évangile est la Marie du Coran. La fois passée, j'en ai parlé, on m'a demandé d'en reparler. La Marie de l'Évangile, premièrement, l'existence de Saint Joseph change tout. Parce que Saint Joseph fait que Jésus n'est pas un bâtard. Alors que dans le Coran, Jésus est un bâtard. Il est obligé de parler pour dire « ma mère n'est pas une prostituée ». Ça, on n'a pas ça dans l'Évangile. Dans l'Évangile, Marie est honorée de A à Z. Dans le Coran, elle est honorée uniquement parce que son fils a parlé. Et encore, il y a ceux qui y croient, ceux qui n'y croient pas. Non, non, dans l'Évangile, on a Saint Joseph qui est le garant de la Sainte Famille. Dans le Coran, Jésus est égal à Mahomet. Marie est la mère de Jésus. Jésus n'est pas le fils de Dieu, il est le fils de Marie. Faites attention, il ne l'appelle pas fils de Dieu. Il l'appelle Inna al-Masih Isa ibn Maryam. Il ne l'appelle pas Jésus, il l'appelle Isa qui est comme Esaü. Isa, Isa. Je ne sais pas si c'est fait exprès. Mais dans la langue arabe, le nom de Jésus, c'est Yeshua. En hébreu, c'est Yeshua. La différence, c'est le « che » qui est dû un peu à l'influence des Grecs. Et dans la chrétienté arabe à laquelle avait affaire Mahomet, on l'appelait Yeshua. On ne l'appelait pas du tout Isa. Alors venir vous dire que le Isa de l'Évangile est égal à Jésus, déjà, ce n'est pas le même nom. Ceci dit, s'ils veulent, moi je veux bien le Isa de l'Évangile. Fait des miracles, il souffle il fabrique un oiseau en terre glaise, il souffle dedans. Mais dans le même Coran, faites attention, il y a un endroit où Dieu souffle dans de la glaise et ça devient Adam. Donc dans les deux cas, il y a de la création. Comment voulez-vous dire que Mahomet est supérieur à Jésus? Ils disent que les prophètes sont égaux, mais en même temps ils vous disent que Jésus n'est venu faire des miracles que pour confirmer ce que Mahomet avait apporté, ce qui était venu avant, pour confirmer et pour parler d'un prophète qui sera appelé Ahmad. Ahmad, c'est une façon de prononcer Muhammad. C'est complètement aberrant tout ça, c'est pas logique. Il n'y a le nom de Mahomet que 4 fois dans le Coran. Le nom de Jésus ou Isa est beaucoup plus fréquent. Ensuite, ils vous disent Inna al-Masih Isa ibn Maryam. Le Christ, Jésus, fils de Marie, ou Isa, fils de Marie, est la parole de Dieu qui est descendue en Marie. Avec ça, il y a des contradictions dans le Coran, comme vous savez. Donc, je voulais parler du père Aseiran, qui est un musulman, qui fut un musulman d'une famille très célèbre. Les Aseiran est une famille qui a donné des politiciens importants au Liban. Quand il s'est converti, vous pouvez imaginer si quelqu'un d'une famille très célèbre se convertit dans un petit pays comme le Liban, dans une petite ville comme Sidon, qui est presque un village, ça fait beaucoup de bruit et on a essayé de le tuer. Il a quand même eu ses amis autour de lui parce que, justement, il a donné l'exemple de la charité. Il a commencé d'abord par descendre, balayer les rues de Sidon, comme un pauvre avec les éboueurs. Puis il s'est aperçu que lui, le fils de famille qui faisait ça, n'évangélisait pas et qu'il valait mieux montrer la charité. Faites attention, ça. Et encore, évangéliser, ce n'était pas parler pour lui, c'était agir. Donc, il a décidé de montrer la charité à laquelle le christianisme nous pousse. Et il a fondé une œuvre pour les délinquants, pour leur apprendre un métier. Et il disait, si les chrétiens pratiquaient leur religion, il n'y aurait plus de musulmans. Donc beaucoup plus efficace que de venir dire à un musulman ta religion est fausse, etc. À mon avis, c'est plus efficace de pratiquer la charité. En même temps, moi, j'évangélise par mes livres, plutôt que d'évangéliser, parce que je vois que ça ne marche plus. Je le fais en montrant ce qu'il y a dans l'autre religion. Les livres là dont on vous a cité les titres montrent ce qu'il y a dans le Coran, ce qu'il y a dans le Hadith. Et là, la question sera, pour le musulman qui est humain, est-ce qu'il accepte ça? Est-ce qu'il accepte, par exemple, que Mahomet ait épousé une jeune fille, une fillette de 9 ans, Aïcha, de 6 ans, et qu'il ait couché avec elle à 9 ans? Est-ce qu'il accepte ça? Et s'il a une fille, est-ce qu'il accepte ça pour sa fille? C'est là que se pose la question. Il y a des gens qui acceptent. Est-ce qu'il accepte l'idée que si quelqu'un ne pense pas comme toi, il va aller en enfer? Ça, c'est une chose que je n'ai pas mise dans ces livres. Viendra un jour. Est-ce qu'il accepte l'idée qu'on lui dise que les houris, qui sont au paradis, qui sont les esclaves sexuels des croyants, est-ce qu'il accepte l'idée que, d'abord, qu'il y ait des esclaves sexuels au paradis, même si on les appelle houris, qu'on les appelle, elles sont des esclaves. Et est-ce qu'il accepte l'idée que ces houris aient été des chrétiennes ou des juives qui ne sont pas envoyés en enfer, mais qui sont envoyés faire l'esclavage au paradis? Est-ce qu'il accepte l'idée d'un autre esclavage aussi? Il y a un hadith qui dit, au jugement dernier, il y a des gens qui viennent, des croyants qui viendront avec des péchés grands comme des montagnes, mais Allah les enverra au paradis et il enverra expier leurs péchés en enfer des chrétiens et des juifs. Est-ce que le musulman humain accepte ça? S'il est humain, il n'acceptera pas ça. S'il est humain, il est humain, il est comme nous. S'il n'est pas humain, alors il rejoint Daesh. C'est pour ça que Daesh est finalement un moyen de séparer le bon grain de l'ivraie. Tout en sachant que parmi eux, il y a des gens qui sont obligés de faire ce qu'ils font. Parce que Daesh, quand l'État islamique arrive dans une ville, il exige, par exemple, 25 volontaires pour le djihad. Et si les 25 ne se trouvent pas, il en désigne. Et s'ils refusent de venir, ils sont tués. Donc on ne peut pas dire qu'ils ont vraiment le choix. Et ils sont obligés de montrer qu'ils sont très vifs, très fervents, très pro-Daesh, parce que sinon, allez, on les tue. C'est très facile de les tuer, qui va le savoir? N'importe qui peut vous tuer à l'intérieur des rangs de Daesh s'il remarque quelque chose qu'il considère être une preuve de mécréance. Une preuve de mécréance peut être le refus de tuer un mécréant. Alors, il y en a qui sont morts de cette façon-là. Beaucoup de musulmans sont morts de cette façon-là. Il y en a qui sont connus, il y en a qui ne sont pas connus. Et ces musulmans-là, qui sont morts de cette façon-là, où croyez-vous qu'ils iront? Ils vont aller en enfer, jamais de la vie. Il y a une parabole dans l'Évangile qui, à mon avis, parle de ce qui se passe aujourd'hui. C'est la parabole de l'homme qui prépare les noces de son fils. Alors, il parle de la fin. Voilà, les serviteurs sont appelés vont appeler les invités à la noce. Le Père veut marier le Fils à l'Église. Le Père céleste veut marier le Christ à l'Église. Et il invite les nations officiellement chrétiennes. Allez, venez. Non, moi je suis occupée, moi j'ai autre chose à faire. C'est ce que vous entendez aujourd'hui. Alors il dit aux serviteurs, aux missionnaires, il leur dit, allez, appelez n'importe qui, allez appeler les pauvres et amenez-les de force. Ben, comment ils vont les amener de force? Dieu respecte les libertés humaines. Ils vont les amener de force, comme par exemple les pays qui n'ont pas été, qui ne se sont pas convertis, comme le Vietnam, comme la Chine, tous ces pays-là où il y a eu tant de massacres. Comment ont eu lieu ces massacres? Quelle était la position des chrétiens là-bas? Les chrétiens étaient dans le camp des massacrés. Et ceux qui ont été tués, par exemple, au Vietnam ou bien au Cambodge, ben, ils auraient très bien pu être dans l'autre camp et faire comme les chrétiens d'Occident. C'était à la mode d'être à gauche en Occident. Moi, je ne suis pas pour la droite ou pour la gauche. Moi, je suis contre les massacres. Mais comme en Occident, on défendait l'Union soviétique parce que c'était de gauche à l'époque, maintenant, on l'attaque parce que c'est de droite. Donc, finalement, on est toujours à des questions politiques. Donc, pour des raisons politiques, on a fait silence sur le martyr de l'Église d'Orient. Mais le martyr des Cambodgiens, quand ils meurent en même temps que l'Église, ben où est-ce qu'ils peuvent aller? Ils ne peuvent pas aller ailleurs qu'avec avec l'Église. S'ils avaient pris le parti contraire à l'Église, ils ne seraient pas morts. Moi, je pense que c'est comme ça que le royaume est en train d'être rempli, disons, de force, alors qu'en même temps, ils sont libres. Et ils n'ont pas choisi d'être tués. C'est tragique qu'on en soit là, mais en même temps, c'est des choses que Dieu permet. Vous savez, souvent, on se convertit à la dernière seconde. On ne sait pas comment ça se passe. Et mieux vaut, comme disent les Espagnols, mieux vaut connaître l'enfer sur terre que dans l'autre monde. Ceci dit, je ne pense pas que jamais le monde, ce monde où nous vivons, jamais je pense qu'il n'a été aussi semblable à l'enfer qu'aujourd'hui. Si vous regardez un peu quels sont les idéaux, si vous regardez dès que vous parlez du Christ, comment ça se passe, dès que vous parlez d'amour, comment ça se passe, si vous voyez la haine et si vous voyez la saleté, les horreurs qu'il y a dans nos rues, la vie, la manière dont on vit avec les réseaux sociaux, finalement Dieu nous a fait pour un jardin, il ne nous a pas fait pour des petites bricoles, des machines auxquelles nous sommes finalement, dont nous sommes des esclaves. Donc je dirais moi qu'il faut témoigner surtout par la charité en l'exerçant et en poussant les musulmans à l'exercer. C'est-à-dire en les considérant comme des êtres humains capables d'exercer la charité, même si on ne leur dit pas « devenez chrétien ». Simone Veil n'est pas devenue chrétienne. Mais si on commence déjà à les pousser à exercer la charité, moi je pense que le Christ se révélera à eux, ou bien alors petit à petit, ils arriveront à un stade où eux-mêmes voudront que vous leur parliez. Je connais une malvoyante libanaise de Tripoli qui vient d'une famille intégriste, islamiste, très violente, très anti-chrétienne. Elle avait retenu le Coran à 9 ou 10 ans, surtout les versets les pires. Et elle écoutait les émissions radio des pires cheikhs, je ne peux pas vous dire. Le pire que vous puissiez imaginer. Et en tant que malvoyante, elle a été soignée dans une association chrétienne dont la patronne effectivement pratiquer la charité, et ça a bouleversé cette musulmane au point qu'elle s'est dit « qu'est-ce que c'est que cette religion-là » et ça m'intéresse, et elle s'est intéressée au christianisme en voyant pratiquer la charité par des chrétiens. Donc si nous étions vraiment chrétiens, en commençant par nos prochains les plus proches, je pense que, comme dit le père Asayran, je ne pense pas que nous pourrions être mieux que les musulmans. Je pense qu'ils nous devanceraient. Parce qu'une femme qui avait des problèmes avec son mari, quand je l'ai convaincue de pardonner à son mari, c'est une musulmane. Elle lui a apporté une bassine, elle lui a lavé les pieds. Alors il s'est étonné, comment ça, on est mariés depuis 30 ans. Elle lui dit, oui, ça c'est ce que mon maître me dit de faire, c'est-à-dire le Christ. Ça, ce n'est pas une baptisée. Ce n'est pas une baptisée, mais elle témoigne. Elle pourrait mourir, avoir un baptême du sang en mourant. Elle n'est pas baptisée parce qu'on ne l'a pas acceptée, parce que notre église, madame, notre église, refusent de baptiser les musulmans sans leur avoir fait subir un martyre de je ne sais combien d'années. Ils n'imaginent pas, supposer que ce musulman meure entre-temps. Bon, parler avec lui, exercer-le, mais il y a aussi des chrétiens qui se corrompent. On ne peut pas deviner ce qui arrivera dans 10 ans. Dans 10 ans, il est possible qu'il se gâte. Moi, j'en ai vu qui se sont gâtés. Mais en même temps, le baptême procure une grâce. Et en Orient, nous sommes dans des pays où il y a des martyrs à n'importe quel moment.